Bonjour à tous. Oh, y a plein de visages qui font plaisir de revoir. On a des jeunes dans l'église, je me faisais la réflexion au début du culte, on a un système d'oiseaux migrateurs. Vous savez, ils viennent, ils repartent, ils viennent, et c'est des migrations liées aux vacances scolaires. Mais ça fait tellement plaisir de voir vos visages. Soyez les bienvenus. Puis les autres aussi. Les autres aussi. Alléluia. Nous voulons partager un passage de l'Écriture. Un verset, un seul verset, pour commencer. Ce verset, c'est une proclamation ou une bénédiction de Paul à l'église de Thessalonique, au chapitre 5 et au verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, le corps, l'âme, l'esprit soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je relis. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, le corps, l'âme, l'esprit, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Non. L'esprit, l'âme et le corps. On dit souvent, quand on parle de bénédiction comme cela, ou quand on prie, ça m'arrive même personnellement de prier en disant « Seigneur, voilà, je veux te louer de tout mon corps, de toute mon âme et de tout mon esprit. » Mais l'ordre dans cette bénédiction de l'apôtre Paul, c'est que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas un ordre donné par hasard. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul dit l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de théologiens, y compris dans des pères de l'Église qui ont commenté ce passage, eh bien cet ordre-là, c'est l'ordre, je dirais, de l'homme régénéré. Beaucoup de théologiens et de pères de l'Église ont considéré que cet ordre-là, l'esprit, l'âme, le corps, c'est l'ordre de l'être individuel quand il est régénéré par Christ, quand il est né de nouveau. Et certains commentateurs disent, au moment de la séparation de l'homme d'avec son Dieu dans le jardin d'Éden, il y a eu une coupure qui s'est effectuée, une inversion des valeurs qui s'est faite, et le corps, l'âme et l'esprit en dernier, dans une certaine mesure, se sont positionnés de cette manière-là. Alors on va essayer d'échanger, de découvrir ce que nous sommes. Je dis souvent à des patientes qui viennent dans l'établissement où je travaille, et je ne suis pas le seul, toute l'équipe soignante dit « Vous êtes là pour apprendre à découvrir qui vous êtes. » Est-ce que vous avez envie que Dieu vous aide à découvrir qui vous êtes? Alors tout de suite, il y en a certains qui disent « Ouais, j'aimerais bien, mais il y a des freins, il y a des blocages, il y a des doutes, des craintes, des peurs à aller à la découverte de soi-même. » Une fois, une patiente, il y a une vingtaine d'années, m'a dit « Moi, c'est impossible que je redécouvre qui je suis, parce que c'était l'invitation à laquelle je lui proposais d'adhérer. Redécouvrir qui elle est au travers du soin, c'est un chemin qui est proposé à tous les toxicomanes, aux personnes dépendantes. Mais je crois que c'est aussi un chemin que Dieu nous invite à vivre chacun pour notre part, redécouvrir qui nous sommes. » Et puis cette femme m'a dit « Non, je ne peux pas. » Et elle m'a dit « Je ne peux pas redécouvrir parce que je ne sais pas qui je suis. » Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la même situation, qui ne savent pas profondément qui ils sont, qui je suis. Alors j'arrive à me reconnaître dans la glace le matin quand je me lave ou quand je me rase, mais qui je suis au plus profond de moi. Et c'est là que se découvrir au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps, ce sont trois composantes qui sont importantes à prendre en compte. L'homme non régénéré commence par le corps. On dit, ouais, je sais qui je suis au niveau du corps et c'est ma priorité. Oui, je sais ce que c'est que l'âme ou mes émotions, mes sentiments, ma personnalité. Oui, ça je sais. L'esprit, moins. Mais il peut y avoir parmi les chrétiens, les enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui ne savent pas véritablement et qui ne sont peut-être pas prêts à laisser l'Esprit de Dieu leur permettre de découvrir qui ils sont. Que savons-nous de ce qui nous constitue? Ce que la Bible souligne comme étant des parties importantes de notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Une création que Dieu a voulu, alors, qu'il a structurée aussi en nous. Des domaines qui peuvent être altérés par les traumatismes, le péché, nos choix, nos décisions, parfois même notre éducation, notre culture. Nous pouvons le comprendre en ce qui concerne notre corps, mais imaginons-nous, comme nous y invite Paul, à sanctifier notre âme et notre esprit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, alors qu'il vous sanctifie dans tout votre être. Et il précise après, l'esprit, l'âme et le corps. Oh, sanctifier l'esprit en moi, cette dimension qui me met en relation avec Dieu. Oui, l'âme, mes sentiments, mes émotions, ma personnalité, en partie, je ne vais quand même pas tout sanctifier et remettre au Seigneur. Puis le corps, voilà, le corps, en partie aussi. Hein. Et puis quelle est la priorité, quel est l'ordre? Je ne sais pas trop. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient sanctifiés. Alors notre ordre naturel, séparé de Dieu, c'est ma préoccupation première, c'est mon corps. Nous sommes dans une société hygiéniste où c'est fou ce que l'on peut se préoccuper de notre corps. Et puis ensuite, il y a toute la dimension, je dirais, de la présentation, de la beauté, de la coupe de cheveux, du maquillage, voire même des tatouages, etc. Ah, notre corps, c'est quelque chose que dans notre société moderne, on investit énormément. En premier, quand on est sans Christ et sans Dieu, c'est notre première priorité. Ensuite, c'est l'âme. On verra en quoi consiste l'âme, quel domaine cela recouvre, mes émotions, mes ressentis, mes envies, mes désirs, ça. Mais l'esprit, là, on peut le laisser de côté. Ça, c'est l'ordre naturel de ce que nous sommes et de nos priorités sans Dieu. Quelqu'un disait, l'esprit, par l'esprit, nous avons conscience de Dieu. Par l'esprit, nous avons conscience de Dieu. Par l'âme, je vais avoir conscience de moi, de qui je suis, ce que je ressens, ce que je perçois. Et puis, par le corps, j'ai la conscience du monde qui m'entoure. C'est un schéma qui est intéressant, mais qui n'est pas entièrement cloisonné. C'est-à-dire que je n'ai pas une partie, c'est mon esprit, une partie, c'est mes ressentis, ma personnalité, mes émotions, mes désirs, mes envies. Et puis une troisième partie qui serait le corps. En fait, ces trois parties-là s'interpénètrent les unes les autres. Il y a une interdépendance entre l'âme et l'esprit. Je vais prendre un exemple. J'ai lu cette anecdote, un vieux moine qui était reconnu pour sa grande piété, donc il y avait une dimension spirituelle. Cette dimension de l'esprit en lui qui était reconnue pour sa grande piété, qui demande un jour à ses frères qu'on lui amène un violon. Et puis les autres disent, mais pourquoi un violon? Et lui répond, mon esprit est en paix, cette relation avec Dieu, mais mon âme est triste. On peut avoir des émotions, et vous le connaissez, des moments où nos émotions, nos ressentis sont différents de ce qui est de notre relation avec Dieu. Et puis, l'âme a une relation avec le corps aussi, le plaisir, la joie quand on se nourrit, quand on se met devant une belle table et puis qu'on nourrit son corps, eh bien tout à coup, il va y avoir l'âme qui se réjouit de ce qu'elle peut goûter, savourer. Il y a des relations entre l'âme et le corps, entre l'âme et l'esprit. Vous avez déjà entendu David dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mes sentiments, mes ressentis. Je peux avoir mon âme, mon ressenti, mes émotions qui sont malgré ma relation avec Dieu, dans un autre état. Il y a une interconnexion entre ces trois choses. Alors, la première des parties de notre être que l'apôtre Paul demande à être sanctifié, c'est que tout votre être, l'esprit en premier lieu, puisque vous êtes connecté à Dieu. L'esprit, la dimension de l'esprit dans l'être humain, c'est sa capacité à être en relation avec des choses immatérielles. Alors vous connaissez, j'en parle souvent, de Maslow, ce psychologue clinicien qui avait établi une pyramide des besoins, le besoin primaire avec manger, boire, respirer, dormir, le besoin de sécurité, se sentir en sécurité. Une fois qu'on a mangé, bu, qu'on satisfait ses besoins primaires, c'est le besoin de se sentir en sécurité. C'est ce qui fait qu'un SDF ne peut pas, je dirais, accéder au niveau supérieur. On ne va pas demander à un SDF de travailler sur son sentiment d'appartenance ou sur l'estime de soi si on ne lui donne pas la capacité d'être en sécurité. Et puis ensuite, vous avez le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi. Puis le dernier, c'est le besoin spirituel. Et Maslow mettait cela comme un besoin non pas religieux et spirituel dans ce sens-là, mais le fait que l'homme est construit de cette manière, à la différence des animaux, c'est qu'il a la capacité de vivre quelque chose qui n'est pas évaluable par les sens, mais pouvoir pleurer devant un tableau, pouvoir écouter un morceau de musique. Vous mettez un chien devant la 9e symphonie de Beethoven, je vous assure que ça ne lui fait pas grand-chose. Mais vous mettez quelqu'un face à une œuvre d'art, face à quelque chose qui fait appel à une autre dimension, qui est celle de l'esprit, pouvoir percevoir le beau, se mettre sur le sommet d'une montagne, regarder un paysage et d'en être bouleversé, regarder la mer, regarder une œuvre d'art, écouter quelque chose, voir quelque chose. L'homme est un être spirituel. Mais, comme je le disais précédemment, c'est un être spirituel dont la connexion a été en grande partie supprimée ou coupée lorsqu'il s'est séparé de Dieu. L'homme est un être spirituel. Il a tout l'équipement. Et c'est ce qui pose un problème à l'être humain, c'est qu'il se pose la question, quand il a satisfait tous ses besoins, comment satisfaire ma dimension spirituelle? Il est équipé pour, il sent bien qu'il y a quelque chose. Un pasteur disait autrefois, l'homme a au fond de lui-même un vide en forme de Dieu. C'est ça cette dimension spirituelle. Je viens de faire refaire ma cage d'escalier à la maison. Quel rapport me direz-vous avec la dimension spirituelle? C'est que les peintres sont venus, ils ont fait tout le temps. C'est une immense cage d'escalier, parce qu'on a trois niveaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième, et ils ont tout refait. Et puis moi, je vais rarement au deuxième étage, parce que je suis enfermé dans mon bureau en bas ou sous la véranda. Et une fois que les travaux ont été terminés, je suis monté pour vérifier. Ils étaient déjà partis, le constat avait été fait, ma femme était satisfaite. Une fois que ma femme est satisfaite, moi, je dis, bon, c'est bon. Puis je monte au deuxième étage, et là, entre le premier étage et le deuxième étage, toute la cage est tip-top, sauf qu'il y a un câble qui sort du premier étage, absolument pas fixé au mur, et qui remonte de manière très étrange jusqu'au deuxième étage, et qui rentre à nouveau dans le mur. Et les peintres, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont peint, posé la tapisserie autour du câble. Et je dis, mais c'est quoi ce truc? Puis avec Francine, on se dit, ça doit être un câble, alors peut-être un câble de télévision qui a été posé autrefois. Donc j'ai regardé, ça partait bien de l'antenne. J'ai une antenne, pas sur la cheminée parce qu'elle est cassée, je l'ai mise à l'intérieur du grenier, encore au niveau au-dessus. Donc il y a l'équipement là, et puis il y a le câble qui descend, et c'est ce fameux câble qui redescend au premier étage, qui rentre dans le mur, qui reparcourt un mur, et qui rentre dans une armoire. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et ça va où? Alors on a suivi le câble avec ma femme et on s'est rendu compte qu'il y avait un câble de télévision qui était dans notre armoire, posé comme ça à l'intérieur. Et on s'est dit, mais oui, autrefois, il y avait une télévision dans l'armoire quand on n'avait pas. Comme ça, on pouvait s'allonger, regarder une émission, etc. Ça pouvait être intéressant. Mais ça fait des années, quand je dis des années, ça fait au moins 15 ans que ce câble-là est tout seul. On a l'équipement, mais ne nous sert à rien. l'homme est équipé spirituellement pour entrer en relation avec Dieu. Il a tout l'équipement et c'est ce qui le rend insatisfait à un moment donné quand il cherche comment remplir tout cet espace qui est prévu pour la relation avec Dieu. Il a tout l'équipement jusqu'à ce qu'il pose le principe que l'équipement ne peut fonctionner que si l'on passe par Christ. Et là, quand on passe par Christ, la vie, le son, l'image, tout arrive à l'homme et à la femme que nous sommes. Avoir l'équipement spirituel, avoir un esprit qui peut rentrer en relation avec Dieu, ne sert à rien si on ne passe pas, si on ne se connecte pas à Christ. J'utilise des images qui sont peut-être un petit peu légères, parce que la connexion, c'est la croix, c'est Golgotha, c'est le prix de la vie du Fils de Dieu. C'est cela qui fait que mon équipement spirituel, tout à coup, reçoit toute une dimension d'information et de relation avec le Dieu vivant. Dieu se révèle à nous par le Saint-Esprit, à notre esprit, à cette capacité que nous avons d'être en relation avec Dieu. C'est notre dimension spirituelle et nous l'avons tous. C'est la partie la plus importante de notre être. C'est un petit peu, certains disaient, comme le lieu très saint, vous savez, dans le temple ou dans le tabernacle. Pour accéder à la présence de Dieu, il fallait faire tout un chemin et qu'il y ait ce passage au lieu très saint, où là on était en relation et en contact réel et permanent avec Dieu. Nous avons cette possibilité. Nous avons cette dimension. Quand Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, en premier lieu l'esprit qui est en vous, votre esprit, votre équipement à pouvoir être en relation avec Dieu, eh bien que votre esprit puisse être rempli de l'esprit de Dieu pour que cette relation vous amène à le découvrir. Nous adorons Dieu par le moyen de notre esprit. Nous recevons de Dieu l'inspiration par le canal de notre esprit. Et comme le dit Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 9, nous demeurons en communion avec Dieu par l'intermédiaire de notre esprit. Il y a l'esprit que nous avons, notre capacité à entrer en relation avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre du monde tactile, physique, etc. Nous avons cette possibilité. Hein? Est-ce que, lorsque Paul dit « Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous », c'est un des drames de l'homme moderne de rester identifié uniquement au niveau de son âme, de ses sentiments, de sa personnalité, de ses capacités humaines. Alors que cette dimension juste horizontale par rapport à nous, nous renvoie à cet équipement que nous avons, pouvoir être en relation avec Dieu. C'est Georges Bernanos, un écrivain qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, un des plus grands écrivains français, qui disait ceci: la civilisation moderne est une conspiration. Vous entendez? La civilisation moderne est une conspiration universelle contre toute espèce de voie intérieure. Tout est fait pour que l'homme moderne ne se préoccupe pas de cette dimension spirituelle qui est la sienne. Le grand péché de l'humanité, c'est l'oubli de Dieu, car il entraîne une rupture de l'alliance. Et Jésus appelle notre esprit à la vie, mais peu de gens répondent à cet appel. J'aime beaucoup ce texte qui renvoie aussi à l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 14, qui dit « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». C'est-à-dire, il y a beaucoup d'appelés, c'est-à-dire tous ceux qui ont un esprit qui peut rentrer en relation avec Dieu. Eh bien, Bernanos dit « Le grand péché de l'humanité, c'est l'oubli de Dieu, car il entraîne une rupture de l'alliance et Jésus appelle notre esprit à la vie. » Mais peu de gens répondent à cet appel. Mais j'ai envie de dire, cette réalité, ce n'est pas simplement la réalité de ceux qui sont inconvertis. C'est aussi la réalité de l'Église de Dieu. L'Église de Christ, en tant que chrétien, est-ce que nous sommes dans cette pensée que Dieu peut sanctifier notre esprit? Est-ce que Dieu peut sanctifier notre esprit? C'est-à-dire cette dimension en nous qui nous permet d'être en relation avec lui? Ou bien est-ce que c'est un équipement qu'on oublie, comme moi, par rapport à mon antenne de télévision? Il y a le câble, il pendouille là, dans le placard, puis on ne s'est jamais posé la question, tiens, il va où celui-là? Et puis il y a tellement de chrétiens qui oublient que dans ce qu'ils sont, ils ont l'équipement spirituel pour cultiver la relation avec Dieu. Qu'est-ce que l'on fait de cela? Alors, la nouvelle naissance, c'est l'accueil et l'ouverture à l'Esprit Saint. C'est notre esprit qui tout à coup se dit, tiens, là il y a une porte, j'ouvre. Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe. Et on dit, entre. La porte s'ouvre et tout à coup, on s'aperçoit que derrière cette porte, notre esprit peut percevoir les mystères de Dieu, le mystère de la vie, l'espérance qui est en Christ, la vie éternelle, me donne un autre regard même sur moi. Mon esprit, en relation avec Dieu, me permet de percevoir toutes ces choses-là. Est-ce que je le cultive? Oui, de temps en temps. Bah tiens, le dimanche matin, à quoi ça sert? C'est ça, hein? Aller à l'église le dimanche matin, c'est pour cultiver et sanctifier mon esprit, pour lui donner de trouver les bonnes positions, les bonnes attitudes, comment grandir. Tous les dimanches. Bon, de temps en temps, trois dimanches, deux, au moins deux par mois. Mais chaque jour, quelle est notre responsabilité quant à sanctifier notre esprit? Ça, c'est la dimension de l'esprit. Est-ce que je fais grandir cette dimension, cette compétence? Vous savez, si je devais aujourd'hui travailler, Renan sera d'accord avec moi, tu travailles sur ordinateur toi aussi. Hein. Depuis combien d'années? 20 ans. Imagine que tu travailles avec les processeurs et les capacités de mémoire aujourd'hui des ordinateurs que tu avais il y a 20 ans. Ça galérerait, hein? Ça ramerait. Ouais, vous savez, mon premier ordinateur, c'était portable. Il me fallait presque une brouette pour le déplacer. C'était un coffre comme ça avec un écran qui se levait, orange. J'aimais beaucoup cet ordinateur. L'écran était orange. Aujourd'hui, il y a de belles photos, etc. Et puis, ça mettait un temps à s'allumer. C'était un modèle diesel, vous voyez. Si aujourd'hui, je devais faire fonctionner les logiciels sur lesquels je travaille, et j'en ai un paquet, avec les processeurs et les mémoires que j'avais, moi, il n'y a pas 20 ans, mais il y a presque 40 ans, je serais en très grosse difficulté. Il y a des chrétiens qui fonctionnent avec une capacité de leur esprit, cette dimension de relation ou de compétence ou de capacité à être en relation avec Dieu, mais qui a très peu évolué dans le temps. La sanctification de mon esprit, c'est-à-dire de faire grandir ma capacité d'être en relation avec Dieu spirituellement, non, ce n'est pas une priorité. Je nous invite, frères et sœurs, à rajouter des barrettes dans notre système de mémoire, d'esprit. Si nous avions la même préoccupation pour que nous grandissions spirituellement, que nous avons des préoccupations à nous occuper de notre âme et de notre corps, je vous assure que notre vie serait transformée. Si, en tout premier lieu, comme nous y invite l'apôtre Paul, nous disions « Je veux sanctifier mon esprit, cette capacité à être en relation avec Dieu. » Et puis, je vous invite, dit Paul, à sanctifier votre âme. Oh, l'âme! Si l'esprit, c'est la conscience spirituelle, la conscience de Dieu, l'âme est la conscience de nous-mêmes. L'âme, c'est dans notre monde ou dans cette partie-là, le domaine des émotions, de notre imagination, le siège de nos affections, de notre volonté, de notre intelligence, de notre mémoire. Bref, tout ce qui nous caractérise en tant que personne humaine. L'âme, c'est un mot qui est intéressant. En hébreu, c'est nefesh. Nefesh. C'est à la fois un mot qui recouvre la notion de vie, c'est très lié à la vie et au sang. D'ailleurs, si vous lisez l'Ancien Testament, le lien entre la vie et le sang, le nefesh et le sang, est très souvent mis en juxtaposition. C'est être une âme, c'est être un être vivant. Hein? Quand Dieu parle à Noé dans son arche, eh bien, il lui dit, eh bien, vous serez préservés, vous, les âmes vivantes, les âmes qui êtes là dans cette arche. Sachez, dit-il dans le Genèse 9, que je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je le redemanderai à l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère, s'il y a une atteinte à sa vie, c'est-à-dire qu'on parle de la vie, ce que je suis. L'âme, c'est notre monde psychique, fait d'émotions, de pensées, et puis qui est quand même tributaire de beaucoup de fluctuations et d'instabilité. Hein. Ce matin, je peux vous assurer, ma femme, elle a assisté à un temps d'instabilité juste avant de venir à l'église, j'ai voulu imprimer ma prédication et que mon imprimante a fait preuve de mauvaise volonté. Je peux vous assurer que là, ça m'a énervé, je suis monté au premier étage, j'ai appelé ma femme, qui déjeunait, qui ne m'entendait pas, ça m'a encore plus énervé. Quand elle est venue, je lui ai dit, ça ne marche pas, tu allumes ton imprimante, s'il te plaît. Je ne sais pas si j'ai dit, s'il te plaît. Mais je lui ai dit, voilà, j'ai besoin. Notre âme, nos émotions, tout cela fluctue, bouge en permanence en nous. Et ce que j'aime bien, c'est que l'âme, c'est vraiment la conscience de ce que nous sommes. Est-ce que nous cultivons aussi, est-ce que nous sanctifions cette dimension de notre personnalité intérieure, ce que nous sommes, nos émotions, notre caractère. J'ai souvent des patientes qui me disent « Oh, moi, je suis comme ça, ça ne changera jamais. » Ouais. Vous savez, moi, je dis ce que je pense. Vous voyez, ça ne va pas être facile. Et en général, ce n'est pas facile dans une vie en collectivité où des personnes se soignent. Quelque part, est-ce que je suis capable de dire « je veux que ce que je suis, mon âme, ma personnalité, mes émotions, mes ressentis, soient sanctifiés, transformés par l'Esprit de Dieu ?» C'est un psychothérapeute qui disait, chrétien, qui disait « l'âme, ce que nous sommes, le nefesh hébraïque, c'est au moins trois composantes. La première, c'est notre volonté. Notre âme est constituée de notre volonté. C'est à ce niveau-là que se situe la clé de nos décisions, bonnes ou mauvaises. Et le Saint-Esprit, là, est-ce qu'on lui laisse la possibilité d'influer sur notre volonté? Est-ce qu'il peut nous influencer afin que nous acceptions que notre volonté soit soumise à la volonté de Dieu, soit sanctifiée? Il y a tellement de choix dans ma vie que j'ai fait sans demander l'avis du Seigneur. Je le reconnais. Moi, je suis quelqu'un, dans ma personnalité, où je me sens compétent, je me dis je suis capable d'eux, et je me suis construit aussi avec certaines fragilités, comme le sens du devoir, je dois faire, je dois être responsable, etc. Et je prends des décisions, mais je ne demande pas forcément au Seigneur. Et quand je me casse la figure, et que le Seigneur me dit, mais ouais, mais est-ce que tu m'avais demandé? Ben non, je n'y ai pas tout à fait pensé. Notre âme, cette première partie, c'est notre volonté, ce que je veux. Et c'est une liberté qui nous est donnée par Dieu. Rappelez-vous au jardin d'Éden. Il dit, voilà, il y a deux arbres dans ce jardin. Il y a l'arbre de la vie, puis il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je te demande de ne pas en manger afin que tu apprennes de moi ce qui est bon et juste. Et il nous donne la possibilité de vouloir. Je suis en communication depuis plusieurs mois avec quelqu'un que je n'ai jamais vu et qui discute de la foi avec moi. On ne s'est jamais vu. Ça fait au moins 2 ans et demi. Mais elle a les mêmes questions que tous les hommes et toutes les femmes nous posent quand ils ne sont pas croyants. Mais si Dieu existait, pourquoi ceci? Pourquoi la guerre? Pourquoi la violence? Pourquoi, etc. Et je la renvoie aussi à cette réalité, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné la liberté de vouloir. Ah! Quel poids, quelle charge que cette liberté. Je peux vouloir ce que je veux. Et il m'a donné la possibilité de vouloir être avec lui ou pas avec lui. Il a donné à Adam et Ève la possibilité de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal plutôt que d'être à côté de lui et de l'apprendre dans la relation. Et aujourd'hui, il me donne cette même liberté. Où en est votre âme? est cette dimension de la volonté? Est-ce qu'elle est soumise à Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit a droit de regard dans vos choix, dans mes choix, dans ce que je choisis et ce que je décide? Ou bien est-ce que je fais de mon côté? Et après, éventuellement, je le consulte. Éventuellement. La volonté. Et puis, il y a notre intelligence, la deuxième partie de notre âme, dont parlait ce psychothérapeute qui dit « Notre intelligence, elle est composée de des options fondamentales qu'on a en soi, nos conceptions, c'est nos préjugés aussi. On a des préjugés qui sont installés en nous, et on ne les voit pas comme des préjugés, c'est des concepts qu'on a intégrés en nous, et on se dit « Voilà, c'est comme ça, ces choses-là sont comme cela, et puis on ne les remet pas en cause. » Nos réactions automatiques, vous savez, les réactions qu'on a sans réfléchir. Il y a nos orientations de vie, nos clichés de pensée. Moi, j'aime beaucoup cette notion. On a des clichés, comme tchoum, ils arrivent, on pense, dès qu'il y a, on est confronté à quelque chose, tchouf, il y a un cliché qui s'affiche, et c'est comme ça. Ça, ça fait partie de notre intelligence, comment elle se construit, nos convictions. Nos convictions. Voilà ce que je crois, c'est ma conviction par rapport à ce monde, par rapport à l'autre, par rapport à moi vis-à-vis de l'autre, voire même nos convictions par rapport à Dieu. J'ai tellement la conviction que Dieu est comme cela que je ne le remets pas en cause. Vous savez, ces convictions qu'on peut retrouver dans certains mouvements chrétiens aujourd'hui, comme l'évangile de la prospérité, etc. Dieu est comme ça. Mais je ne vais pas sonder l'Écriture pour remettre en question ces convictions qui sont là en moi. Est-ce que je laisse à l'Esprit-Saint cette liberté de remettre en cause mes convictions personnelles, que je pense même parfois être les convictions de Dieu? Mes désirs, ça fait partie là aussi de cette dimension de notre âme, de cette intelligence qui est en nous. Il y a le bagage culturel. Je suis sûr que si vous posez des questions par rapport à certains points à mon épouse qui est suissesse, vous verrez qu'elle a un bagage culturel qui est différent du mien, qui suis un bon français même si je m'en défends. Je dis souvent je suis franco-vietnamien. Je suis un bon français. Le bagage culturel, intellectuel que nous avons, c'est notre intelligence. Est-ce que cela peut être sanctifié, comme le dit l'apôtre Paul, comme faisant partie de notre être, qui peut être visité par Dieu, transformé, touché? Et puis il y a nos expériences de vie, bonnes ou traumatiques, qui font qu'il va y avoir une intelligence qui va se former, qui va nous faire adopter des comportements, des positionnements. Je pense aux violences qui sont subies. Je pense, je dirais, à des personnes qui ont été trompées à répétition. Je pense à des personnes qui n'ont pas été aimées. Un enfant qui n'est pas aimé, vous savez, il va se construire des murs intérieurs. Il va avoir une intelligence qui va lui permettre de s'adapter et de continuer à vivre. Est-ce que nous avons une intelligence qui est basée là-dessus et qui fait que notre rapport à nous-mêmes, le rapport aux autres, voire même le rapport à Dieu est faussé? Parce que nous sommes habités par cette personne que nous sommes, par cette expérience. Alors, comment sanctifier ce que nous sommes en tant que personnalité au niveau de notre intelligence? Eh bien, c'est la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que je lui donne suffisamment d'autorité? Parce que là aussi, si la Bible a moins d'autorité que moi, elle est inefficace. Si je suis au-dessus de la Bible n'a pas son efficacité maximum. Mais si l'Esprit-Saint en moi, je lui laisse la liberté de poser les fondements de la parole de Dieu et que je lui donne cette autorité-là, alors ma vie, mon intelligence peut être transformée. Vous vous rappelez de l'apôtre Paul qui dit aux Éphésiens, je vous invite à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Et il dira à Timothée, un de ses disciples préférés, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous avons besoin que notre intelligence soit sanctifiée visité par Dieu, transformé, guéri. Et puis, la troisième dimension de notre âme, c'est les sentiments. Vous savez que les sentiments, qui sont partie constituante de notre âme, de notre être intérieur, en français, il y a plus d'un millier de mots pour parler des sentiments. Un millier de mots. Alors que dans d'autres langues, c'est beaucoup plus réduit au niveau du lexique. Un millier de mots pour que nous puissions parler. C'est peut-être ce qui dérange les personnes étrangères d'apprendre le français. Hein? Mais on classe les sentiments en quatre catégories. La première, c'est la peur, l'anxiété, l'angoisse, toute cette dimension-là. La peur, l'anxiété, l'angoisse, c'est la crainte d'un mal à venir. La peur, l'angoisse, l'anxiété. On a peur de ce qui va advenir, ou de ce qui pourrait advenir. Et ça peut concerner tous les domaines de notre vie, personnelle ou sociétale. La deuxième partie, c'est la tristesse. Deuxième groupe de sentiments. La tristesse, c'est la perte d'un bien passé ou d'un mal actuel. La tristesse, on peut être envahi par ce sentiment. On a perdu quelque chose ou on est dans une situation de souffrance maintenant. La colère, c'est la réaction devant un mal actuel. La colère, on est confronté à quelque chose et on se met en colère. Un mal actuel. Et puis la quatrième catégorie de sentiments, c'est la joie qui est liée à l'amour, la sympathie, la louange, au plaisir, de tout ce qui est positif. Voilà les sentiments qui peuvent être en nous. Est-ce que, selon la parole de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, nous pouvons faire en sorte que nos sentiments soient sanctifiés? Alors, on se dit, oui, la colère. La colère, on passe tout de suite. Ah oui, ça, la colère, c'est pas bien. C'est pas bien, la colère, se mettre en colère. Hein? Donc là, oui, on veut bien. En même temps, ce n'est pas toujours facile, parce que ça fait partie parfois de notre nature profonde. Et on peut demander à Dieu à ce qu'il nous libère de cette colère, d'apprendre à avoir du recul par rapport aux événements, à se méfier de ce qui nous habite. Hein? La colère, on est d'accord? C'est pas bien. Comme la guerre. Ça, c'est les discours des Miss France, Miss Univers. La guerre, c'est pas bien. La fin dans le monde, c'est pas bien. La colère, c'est pas bien. D'accord. Ok, on est d'accord. Mais est-ce que la peur, l'anxiété, l'angoisse, c'est-à-dire ces sentiments qui s'installent en nous par rapport à quelque chose qui est à venir, est-ce que nous pouvons demander à Dieu à ce que la crainte, l'angoisse qui nous habite peuvent être, je dirais, sanctifiées par l'Esprit de Dieu? Apprendre à ne plus être dans l'inquiétude. Qui de vous, par ses inquiétudes, rajoutera une coudée à la longueur de sa vie? Dit l'Évangile. Et parfois, en fonction de nos personnalités, notre âme peut être habitée par un sentiment d'angoisse, de peur, d'anxiété, et nous, je dirais pas quelque part que nous le cultivons, mais nous le laissons installer en nous. Est-ce que l'Esprit Saint peut sanctifier cela et m'apprendre à ne plus être sujet, à laisser la place à la peur, l'angoisse, l'inquiétude des choses à venir? On dit, on proclame, Seigneur, je te donne toute ma vie. Oui, mais quand ça ne va pas bien, ou quand je pense que ça pourrait ne pas aller bien, c'est justifié que je sois angoissé, dans la peur, dans l'inquiétude. Ben non, Dieu dit, je peux guérir cela aussi en toi. Est-ce que tu serais prête à faire cette expérience? Est-ce que tu serais prêt à faire cette expérience avec moi? La tristesse. La tristesse est un sentiment légitime. Vous savez? Moi, ça m'énerve d'assister à des obsèques dans des milieux évangéliques où le pasteur dit « Ah, ne soyez pas triste, nous allons nous retrouver au ciel. » Bah oui, bon, mais là, je suis quand même triste que qu'il soit ou qu'elle soit partie, parce que la séparation, c'est toujours signe de tristesse, même si elle est transitoire. Il y a des temps de tristesse qui sont légitimes et Dieu ne nous juge pas là-dessus, mais est-ce que je peux demander à Dieu de sanctifier aussi ce qui pourrait être une attitude, un comportement qui est constant, permanent, et dont Dieu voudrait au moins que je le lui remette et que cela change mon existence et ma vie. La joie, Alors la joie, est-ce que ça peut être quelque chose où on se dit, Seigneur, sanctifie ma joie?
Ben oui,
oui aussi. J'ai des patientes qui vivent souvent cela quand elles s'alcoolisent, qu'elles reprennent des produits. C'est parce qu'elles n'ont pas su gérer des temps de joie ou de bien-être excessif. Tout à coup, ça les a envahis et ça a fait un peu tomber les murs, etc. Est-ce que la joie, ça peut être quelque chose aussi que j'apprends à cultiver, qui soit profond, profonde, mais pour autant, habité là aussi par l'Esprit de Dieu. La louange. Moi, j'aime bien qu'on danse, qu'on lève les mains, etc. Mais je sais qu'il y a des manifestations de joie. Moi, je dis, bon, que les autres le vivent. Oui, moi, si vous me demandez de danser, quand j'étais jeune, c'est « Quand l'Esprit de Dieu agite en moi, je chante comme David. » Alors moi, je disais « Quand l'Esprit de Dieu agite en moi. » J'avais 15 ans. Hein, je chante comme... Puis quand ça arrivait « Quand l'Esprit de Dieu agite en moi, je danse comme David. » je danse comme David. Parce que c'est pas mon truc. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Mais est-ce qu'on peut laisser l'Esprit Saint nous faire grandir dans ce qui ne nous est pas forcément naturel, mais aussi accepter qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas? Sanctifie la joie en moi, qu'elle soit une joie qui m'épanouisse, qui me fasse du bien. Et puis, le corps, la troisième dimension, âme, esprit, âme et corps. Est-ce que mon corps peut être sanctifié? Psaume 31, aie pitié de moi, Seigneur, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Mon corps, c'est une dimension que je ne peux pas négliger. Il ne doit pas être au premier rang de mes préoccupations. Comme on disait, corps, âme et esprit. C'est l'ordre de l'homme non régénéré. Mais esprit, âme et corps, comment mon corps peut être pris en compte? En hébreu, j'étais très étonné de voir que Beten, qui est le mot utilisé dans ce psaume, c'est un mot qui vient d'une racine hébraïque qui veut dire creux, c'est-à-dire contenant, quelque chose qui est creux et qui peut contenir. C'est d'ailleurs ce mot-là qui est utilisé pour parler des entrailles et surtout qui parle de cette notion de corps qui peut être fécondé, qui peut être rempli de quelque chose, et notamment d'un enfant. Est-ce que le corps peut être sanctifié aussi pour qu'il soit à sa juste place? C'est important que notre corps soit conscient du monde qui l'entoure. C'est important que je prenne possession et que je sois même réconcilié avec mon corps. Il y a parfois des personnes qui sont trop grandes, trop petites, trop larges, et d'autres trop fines, etc. Comment est-ce qu'on peut aussi accepter d'être ce que Dieu a voulu de nous par rapport à notre corps? C'est le corps qui nous relie à la terre. Je lisais que le corps contient les mêmes éléments qui composent le sol terrestre. C'est-à-dire, dans le corps, vous trouvez de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du calcium, du phosphore, du potassium, du soufre, du sodium, du chlore, du magnésium, du fer et beaucoup d'autres éléments. D'ailleurs, quand je fais un bisou à ma femme, je lui dis « Qu'est-ce que j'aime ton potassium ?» Hein ? Nous sommes constitués de la même nature que la Terre. Mais est-ce que ce corps-là, qui est la seule partie visible de notre être, esprit, on ne le voit pas, l'âme, on ne la voit pas, on en voit les répercussions dans les relations avec les autres, mais mon corps, c'est la seule partie visible. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, au chapitre 4, 16, verset 16 de la deuxième lettre, c'est pourquoi ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il fait cette séparation entre à la fois l'homme extérieur qui va se dégrader avec le temps, et puis l'homme intérieur qui est appelé à s'épanouir, à grandir, à se développer. Et pourtant, ce corps, qu'on peut qualifier de vase de terre, de contenant, c'est la tente, la demeure terrestre de notre personnalité, le siège de notre vie psychique, le véhicule de notre être intérieur. C'est Saint François d'Assise qui, parlant de son corps, disait, l'appelait mon frère l'âne. Et c'est mon véhicule pour transporter tout ce que je suis. Mais je dois en prendre soin, je dois le nourrir. Même s'il était dans un ordre dont les clés, c'était l'abandon des biens terrestres, il disait, mais prenez soin de votre corps, parce que c'est lui qui transporte tout le restant. Voilà, il a sa valeur propre et son importance, il est création de Dieu. Et nous ne devons pas le mépriser, comme dit Paul aux Colossiens. Esprit, âme et corps. Est-ce que ce matin, quand Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, on aurait peut-être que tout votre être, ça on aurait peut-être gardé. Puis après, on a peut-être dit que tout votre être soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement. Et puis là, l'apôtre Paul nous dit non. Votre être tout entier, c'est votre esprit, votre capacité d'être en relation avec Dieu, votre âme, votre capacité d'être en relation avec vous-même, avec votre personnalité, avec ce que vous êtes. Et puis votre corps qui est capable d'être en relation avec le monde. Et que chaque partie de cela soit prise en compte, sanctifiée à la bonne place. Je parlais avec quelqu'un de l'église qui me disait « J'ai délaissé le sport que je faisais parce que ça prenait tellement de place dans ma vie. » Et je lui ai posé la question « Mais ça ne te manque pas ?» Il m'a dit « Non. » Parce que dans sa vie, l'esprit, l'âme et le corps ont trouvé un équilibre. Quelle est la partie qui n'est pas suffisamment prise en compte dans ma vie? Mon esprit dans sa relation à Dieu? Mon âme avec tout ce que je suis et qui doit être transformé? Ou mon corps qui prend trop de place ou pas assez? Est-ce que Dieu peut, par son esprit, agir en nous ce matin, dans chacune de nos vies? Seigneur, ta pensée pour chacun d'entre nous est personnelle, individuelle. Et dans ta parole, tu nous donnes des orientations pour pouvoir nous arrêter devant toi et te dire, là, il y a quelque chose qui me concerne. Ton Esprit Saint, là, me dit qu'il y a une œuvre à accomplir. Il y a des pas de foi à faire. Il y a des guérisons à vivre. Tu vois, Seigneur, cette dimension de notre être, la dimension spirituelle, la dimension de notre personnalité, la dimension de notre corps physique. L'invitation de Paul retentit aujourd'hui encore pour chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, être sincères devant toi, par ton esprit. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions discerner là où nous avons à te laisser agir dans nos vies. Là où nous avons besoin de te laisser agir dans nos vies. Amen.